Et salut à toutes et salut à tous, de retour pour ce quatrième épisode de Game Lovers, la deuxième partie. Hein. La première partie, c'était déjà la semaine dernière pour nos auditeurs d'RCC. Cette fois-ci, c'est donc la deuxième partie. On s'était laissé au cours de l'épisode précédent sur les pires ratages d'adaptation vidéoludique au cinéma. On parlera peut-être de l'inverse en fin d'émission, on verra bien ce qu'on fera. Mais pour commencer cette deuxième partie, on va pas faire le rappel de notre présence sur tous les réseaux sociaux, toutes les applis d'écoute. Hein, vous cherchez, vous êtes des grands garçons, vous êtes des grandes filles, tout va bien. On va donner la parole à notre première participante. On les rappelle quand même. D'abord, ils sont là. Alors honneur aux dames. Hein. Honneur aux dames. C'est facile. Voilà, j'ai déjà eu droit à des remontrances, donc je ferai pas deux fois la même erreur.
Moi, j'ai rien dit.
Madame, qui êtes-vous? Décliner
votre identité. Je m'appelle Cécile, alias Cibou sur les réseaux sociaux. Je suis comédienne voix off et streameuse sur Twitch à mes heures perdues. Voilà.
Alors pour ceux qui l'ignorent, une comédienne voix off n'est pas une doubleuse. Hein. Évitez de commettre des impairs. Voilà.
Ce n'est pas le même métier.
Ça n'est pas la même chose. Voilà. Je l'ai appris à mes dépens. Voilà. J'ai eu droit à quelques remontrances, ma foi, tout à fait légitimes. On est également avec
Cyril, bonjour à toutes et à tous. Donc, j'ai commencé, ma carrière de gamer sur Sega Master System, suite Amiga 1200. Donc voilà, je partage cette passion entre les jeux vidéo et le cinéma. Je suis ravi d'être avec vous.
Et il est accompagné, Cyril, d'un de ses acolytes. Un de ses acolytes de la vie de tous les jours. Un acolyte de travail, un acolyte de passion.
Exactement.
Il est là, c'est Fred.
De Retro Arcade Game.
Voilà. Retro Arcade Game, on en parle un petit peu.
Alors, on parle création de bandes d'arcade personnalisées sur Ajaccio.
Voilà.
Livraison dans toute l'Europe.
Dans toute l'Europe?
Toute l'Europe.
Mais ça, tu ne l'avais pas dit.
Non, mais entre l'émission, on a progressé, tu vois.
Il s'est passé 5 minutes. Voilà. Mais entre-temps, il a sorti son Mac. Donc, je crois qu'il a signé. Il vient de signer quelque chose.
Des gros contrats, des gros.
Un partenariat avec DHL, je crois. Pour livrer.
Et pas fan de Spielberg.
Pour livrer en Finlande. Et il adore Steven Spielberg.
Non, mais j'ai rien contre lui, personnellement.
Donc, bah, vous l'aurez compris, hein, avec cette première baffe distribuée comme ça dans la tronche à Steven, qu'on parlait cinéma.
Ouais.
On parlait cinéma et on va continuer à le faire avec Cibou justement, puisque c'est en partie son métier. Elle va nous en parler et ben on pourra parler de la proximité qu'il peut y avoir entre son métier de comédienne aujourd'hui au cinéma. Et le métier de comédienne aussi dans le jeu vidéo, parce que je crois qu'elle a une petite expérience aussi qu'elle va partager avec nous dans le jeu vidéo.
Toi, tu voulais parler technique, justement, dans tout ce qui a évolué dans le milieu du jeu vidéo. Il y a notamment le doublage, justement, parce que dans les années 90, je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu des jeux vidéo qui ont été doublés en français. Ils étaient sous-titrés, certes, pour pouvoir y jouaient, dans les années 2000, ils ont commencé à doubler les jeux vidéo. Sauf que, en tant que comédien, la technique, elle est pas du tout la même maintenant que quand on a commencé le doublage des jeux vidéo. Faut savoir que, en tant que comédien, quand on va doubler un jeu vidéo, on a juste une bande rythmo, c'est-à-dire une onde sonore qu'on voit sur un écran. Ça va être la référence en japonais ou en anglais. Et nous, on doit dire le texte qui a été traduit en français, donc qui fait pas toujours la même durée pour dire la même chose, mais on doit tenir dans cette durée parce que, on n'a pas l'image du tout. On a uniquement la bande son parce que pendant des années, il y a eu, même encore un peu maintenant, mais c'est différent, on fait signer des plus gros contrats, je pense, maintenant de confidentialité. Mais il y avait une peur autour de la fuite des informations, etc., de l'histoire, des images avant que les jeux ne sortent. Donc les comédiens, eux, n'avaient rien du tout. Maintenant, en 2022 et depuis déjà quelques années, il y a beaucoup de directeurs artistiques, notamment, je sais, Donald Renew, qui double Titeuf, qui double Spider-Man, il double beaucoup et il est directeur artistique. Donc les directeurs artistiques, ce sont des comédiens en général, mais qui vont diriger les comédiens d'un film ou d'un jeu vidéo, c'est-à-dire leur donner les bonnes indications pour qu'ils aient un jeu correct et qui match bien avec ce qui se passe vraiment, et bien ces comédiens là mettent un peu plus la pression aux studios de jeux vidéo pour avoir les images en amont. Et maintenant, on fait dans le jeu vidéo.
Ce qui se passe davantage quand tu fais du doublage de films.
C'est ça.
Ça, en revanche, c'est systématique.
Quand on double des films. Après, il y a certains films, je pense typiquement à Ready Player One, dont on a parlé dans la partie 1, ouais. où t'avais que la tête de ton personnage et tout le reste de l'image était flouté. Donc ça doit être très bizarre en tant que comédien de doubler un film en voyant un peu, mais pas tout. Ils font ça sur les grosses licences.
Mais... comme si on avait le personnage devant un fond vert et qu'on masquait tout l'arrière-plan.
Qu'il n'y ait pas de fuite, même si les comédiens et tout ça ont signé des contrats spécifiques. Mais maintenant, le doublage d'un jeu vidéo, en tout cas la plupart des grosses licences, se font comme un doublage de film, donc à l'image, avec le texte qui défile en dessous et une synchronisation labiale, synchronisation des lèvres par rapport au texte, comme pour un film en fait.
C'est super intéressant ça, d'autant que voilà, la synchro labiale, c'est par exemple une des avancées technologiques que permettent les nouveaux moteurs qui servent à faire du jeu vidéo. En fait, le mouvement des lèvres va se synchroniser avec la langue qui est employée par le personnage à l'écran. Si votre personnage parle anglais ou s'il parle français, en fonction des sons qui sont produits, il y a une intelligence artificielle qui va faire bouger les lèvres de telle ou telle façon pour essayer de coller le plus possible à la langue. Est-ce que ça renforce vraiment l'immersion dans le sens où on a regardé toute notre, on continue de regarder des films,
mal doublé, oui.
Mais si tu veux, la synchro labiale, elle est toujours difficile à obtenir. Quand nous, on regarde un film qui est en version originale, est en anglais, qu'on le regarde en français, très souvent, on en fait abstraction.
Oui, on l'oublie.
Si c'est vraiment très, très, très grossier, ou quand les mots sont vraiment pas adaptés, qu'on va tiquer sur le mouvement des lèvres qui correspond pas à ce qu'il dit.
Mais encore, on est gâté en France parce que dans les autres pays où il y a du doublage, ils ont pas les technologies qu'on a en France. Je sais pas pourquoi c'est pas développé autant, mais du coup, on a des outils qui nous permettent d'être beaucoup plus à l'aise et d'être à 100% dans le jeu, parce que il y a le texte qui défile en dessous, tandis que dans d'autres pays, c'est pas comme ça. Ils doivent se caler à l'image, ils ont leur phrase écrite sur un papier et puis pouf.
Moi, je me rappelle.
Tu peux anticiper sur la suite à venir.
C'est ça.
D'accord.
Moi, j'ai vu un James Bond doublé en portugais. Je le conseille à personne.
Je suis sûr qu'il y a une anecdote autour de ça.
J'étais au Portugal à l'hôtel et je tombe sur un James Bond et c'était un grand moment de rigolade parce que pas le fait qu'il parle portugais, c'est que c'était très mal joué. En fait, c'était pas joué du tout.
C'est ça.
D'accord.
Donc de voir, je crois que c'était Sean Connery doublé en portugais. Bon, déjà, c'est vrai que ça fait bizarre, mais mal joué du tout. Et c'était voilà. C'est vrai qu'en France, on a quand même des bons doubleurs.
Tu veux dire que la voix n'incarnait pas. Enfin, il y avait une dissonance entre la voix.
C'était pas joué. C'était pas joué. Il y a pas d'acting derrière.
C'est ça.
L'intonation vraiment marquée.
Oui, la voix n'était pas jouée. Tu veux dire.
La voix n'était pas jouée.
D'accord. Ok. Et alors, est-ce que tu as vécu une expérience de doublage dans le jeu vidéo? Je fais semblant de pas savoir, parce qu'en fait, je le sais, mais je l'amène très discrètement, vous aurez remarqué sur l'anecdote.
J'ai une seule expérience de doublage dans le jeu vidéo. Vous pouvez entendre ma voix sur le jeu vidéo Jeux Olympiques Tokyo 2020, qui est donc sorti en 2021 à cause du Covid.
Parce que les JO avaient été reportés en 2021.
Oui, c'est ça, exactement.
Et ils l'ont laissé baptiser 2020 quand même.
Oui.
Ah ouais.
Oui. Et du coup, bon là, c'est pas un rôle de comédie à 100% puisque si vous jouez au jeu, vous aurez une voix masculine, une voix féminine qui annonce les scores en fonction des différents jeux. Et donc moi, je fais la speakerine du stade qui annonce les pays, qui annonce les joueurs.
Moi, j'ai acheté le jeu immédiatement.
Juste
pour entendre aussi vous parler dans un jeu. Je connais la fille qui parle.
Il y a plus simple, tu vas sur YouTube, tu tapes Tokyo.
Non, j'achète le jeu. Tu prends pas un petit pourcentage sur la vente?
Rien du tout.
Tu ne prends plus rien, c'est terminé?
Ah non, c'est pas comme ça que ça
fonctionne. C'était un ticket à l'entrée et terminé.
T'es payé en cachet d'intermittent du spectacle en fonction du nombre de lignes que tu doubles dans un film ou dans une série ou dans un jeu vidéo.
Ne l'achetez pas.
On n'a pas de dividendes sur.
Ça vous plaît, mais. Ouais. Non,
si
mais
vous aimez les jeux de sport, c'est un bon jeu de sport, a priori, mais bon.
Je sais, moi, je n'y ai pas joué. Le dernier Jeux Olympiques auquel j'ai joué, je vais vous le dire, c'était Nagano Winter Olympique 98. Là, tu imagines Nagano, hein, c'est Nagano. Pas bien. Mais c'était très, enfin, c'était bien.
Les guignols de l'info étaient
sympa pour l'époque. Nagano,
ouais. C'est la salle d'action.
Tiens, il y avait une speakerine et c'était sur PS1. Donc,
déjà à l'époque.
Alors, c'est pas de la, comme elle vient de le dire, tu vois, c'est pas un boulot de comédienne. Il n'y a pas un vrai travail d'acting, mais il y avait déjà une, j'ai souvenir qu'il y avait une voix off qui annonçait, de la même façon, hein, les scores.
C'est ça.
Et ben, justement, la technique au service du, la technique héritée du cinéma ou la technique héritée des nouvelles technologies, au service du cinéma ou au service du jeu vidéo, ça vous fait penser à quoi?
Je pense, motion capture.
Motion capture. On explique ce que c'est pour nos auditeurs.
Je te laisse expliquer.
Non, vas-y.
En fait, c'est des comédiens qui ont une sorte de combinaison avec des points lumineux et l'ordinateur reconstruit les mouvements de l'acteur.
Mm-hmm. Alors ça, c'est très utilisé en jeu vidéo.
En jeu vidéo, plus en plus en cinéma aussi pour les personnages en
3D.
En CGI, voilà, en 3D. Alors, je sais pas qui a commencé, par contre.
Je sais pas. Moi, alors, je pense qu'un des premiers à faire de la motion capture au cinéma, un des premiers rôles marquants, c'est le rôle de Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Première créature construite vraiment numériquement et qui a été jouée avec un costume de motion capture.
Je pense que le vidéo va devenir après.
Non, le premier à le faire, je sais pas.
C'est une question de budget aussi.
Je pense que les premiers jeux FIFA, parce que je repense à ces jeux FIFA 2000 dans les années où tu vois, il y avait Edgar Davids et tout. Il y avait une publicité où tu les voyais justement avec la combinaison de motion capture, et je me demande si les premiers à le faire, c'est pas le jeu vidéo de sport.
Gollum, lui, c'était différent.
Pour articuler justement les mouvements pour qu'ils soient le plus fidèles à la réalité possible.
C'était le premier où il prenait aussi le visage.
Ouais, comment ça s'appelle d'ailleurs? C'est de la motion capture.
C'est une autre technique. C'est pas où ils prennent vraiment les
expressions faciales.
Les expressions faciales, un peu comme Avatar qui a développé ça encore plus, un niveau au-dessus. Bon, Avatar, ils ont carrément la caméra qui filme l'acteur en train de jouer.
J'ai jamais vu le making of d'Avatar, donc je peux pas.
Ben voilà, donc c'est.
Je peux pas en attester.
Une autre technologie,
mais, ouais. Et
pour la motion capture après.
La motion capture héritée probablement, enfin en tout cas, qu'elle soit héritée du cinéma ou du jeu vidéo, c'est voilà un outil qui techniquement a permis des avancées dans le monde du cinéma en faisant intervenir des nouvelles.
Des personnages, voilà. Il n'existe pas.
Des personnages qui n'existent pas. Non, mais c'est vrai. On se met à faire jouer des comédiens qui
jouent des personnages, des créatures, des.
Ouais. Alors, il y a toujours un travail d'acting quand même.
Bien sûr.
Voilà. Il faut mais la personne que on aperçoit à l'écran, le personnage qu'on aperçoit à l'écran, lui, n'est pas une personnalité. Il est joué derrière avec,
Maintenant, les jeunes, ils ont l'habitude.
Oui.
Tous les jeux qui sortent maintenant, tous les films qui sortent, les personnages.
Non, mais cela dit, je pense à un film hérité du jeu vidéo. Qui avait fait de la motion capture et à un niveau aussi extraordinaire que fut le ratage au cinéma, c'est Final Fantasy, les créatures de l'esprit.
Il n'y a pas une motion capture, Final Fantasy.
Ah, il n'y a pas une motion capture. Non, ils avaient tout animé à la main. Ah ouais.
À tel point que plus le film avançait, les technologies évoluaient, ils ont dû refaire le début quand ils sont arrivés à la fin, parce qu'il y avait tellement de différences entre les.
Ah ouais, entre temps, le cap technique était, d'accord. Mais je pense à celui-là parce que.
Ils ont tout fait à la main.
Techniquement.
C'était, je pense,
c'était 100% de l'image de synthèse pour les personnages principaux. Et la fidélité des expressions et de
c'est incroyable.
C'est
dû être un des derniers vraiment.
Au moment où ça sort, c'est vraiment époustouflant techniquement. Voilà. Et pourtant, au cinéma, la mayonnaise, elle prend pas.
Ça, pas les gens pas accrochés.
Pour quelle raison?
Je sais pas, parce que le film est pas.
Le film est pas mauvais, hein.
Le film est pas mauvais en lui-même. C'est une histoire de science-fiction plutôt classique, mais qui marche bien.
Est-ce qu'il, en fait, il aurait pas fallu l'appeler Final Fantasy?
Peut-être. Peut-être que les fans de Final Fantasy sont braqués bêtement parce que.
Y a pas un Mog, y a pas un Chocobo.
Y a pas un Chocobo.
Y a pas un Mog, y a pas un Chocobo. On n'est pas dans du médiéval fantastique.
Ils ont dû l'appeler autrement. Dommage.
Alors qu'ils ont réussi ça.
D'ailleurs, c'est ce qui a coulé Squaresoft, hein.
Oui, et c'est pour ça que la fusion avec un autre studio qui s'appelle Enix s'est faite ensuite. C'est pour ça qu'aujourd'hui on parle de Square Enix.
C'était un four financier.
Ça a été le grand. Enfin, C'est pas le grand délire, mais c'était le fondateur.
Une grosse ambition. C'était une grande ambition.
Attends, c'était Sakaguchi, oui. Sakaguchi. Le papa de la série Final Fantasy.
Qui a été viré suite à ça, d'ailleurs.
Qui a voulu, qui a pris du recul. Et...
Oui, voilà.
Voilà. Souvent, c'est les autres qui ont pris de l'avance. On sait pas trop, mais.
On l'a mis en repos.
On dit que souvent au Japon, tu sais, quand tu mets quelqu'un au placard, on dit, il est malade, il se repose.
Ouais, c'est ça.
Il est pas viré, mais.
Ce qui explique pourquoi les Final Fantasy sont peut-être moins bien.
Peut-être parce qu'il a fallu. Ah oh, là, c'est une pique, je le sais.
Je le sais qu'il m'attaque.
C'est
Jonathan McGoot, il m'encore.
Non, ce qui est vrai, c'est que ce film-là, quand le jeu vidéo a voulu aller au cinéma, c'est un super exemple. Ah, ils ont failli couler leur entreprise. Enfin, en tout cas, le créateur de Final Fantasy, qui tenait absolument à faire un film, a failli couler l'entreprise. Pour X ou Y raison, peut-être que c'est juste une histoire de nom en fait. Peut-être que s'il l'avait appelé autrement, ça aurait marché. L'erreur, c'est de l'appeler Final Fantasy et que, comme disait Cibou, il y a des attentes. À un moment donné, les fans s'y sont pas retrouvés parce qu'on a voulu peut-être les séduire avec ce nom-là et ça a pas marché. Enfin, en tout cas, le public a pas été au rendez-vous comme ça avait été espéré. Et ça avait coûté tellement d'argent qu'il a fallu fusionner avec le plus grand concurrent japonais de l'époque, qui s'appelait Enix, qui est le papa des jeux Dragon Quest, pour ceux qui les connaissent. Pour devenir une nouvelle entité qui s'appelle Square Enix, qui existe encore aujourd'hui. Mais c'est vrai que pendant des années, pour se relever de ce désastre financier, il a fallu trouver des moyens, parfois pas très jolis, pour aller taper le portefeuille du chaland qui passait dans le coin et qui aimait bien les licences. Voilà. On reparlera pas des FF15.
Ah si.
Vendu en morceaux, si tu veux en parler.
Oui, moi je veux parler des FF15.
Allez, vas-y.
Ils ont fait un film.
Est-ce qu'ils ont fait Kingsglaive, oui.
Kingsglaive.
Ils ont fait un film.
Est-ce que c'est du fan service? C'est une question.
Alors, moi, je pars du principe que le fan service, c'est si t'as joué à tous les FF depuis l'histoire de l'humanité, et tout le monde dit, le 7 c'est le mieux, le 9, le 8. Bon, moi, j'ai joué à aucun Final Fantasy XIV, à part le 14, qui est un MMORPG, donc en ligne, multijoueur dans mon entier, et le 15. Et en l'occurrence, du coup, moi, j'ai pas d'attente. C'est encore la même chose. C'est que j'ai pas d'attente par rapport à l'univers.
C'était de zéro, en fait. Ouais.
Voilà. Et donc, je jouais déjà à Final Fantasy XIV quand le 15 est sorti. Le 15 sort. Je sais plus si j'ai vu le film.
Tu rentres par le film ou par le jeu? Ouais, parce que c'est...
Je sais plus, mais en fait, peu importe. Le film, je l'ai trouvé incroyable. Il me semble que je l'ai vu après avoir joué au jeu.
Alors, il est techniquement époustouflant.
Ah, oui,
mais
oui,
vraiment.
Oui, oui.
Alors, en fait, il sert de prequel au jeu parce qu'il raconte le début du jeu. Mais en fait, ce qu'on dit pas, il y a un bouquin qui en parle très très bien d'ailleurs. C'est les bouquins de Third Editions d'ailleurs, puisque voilà, on peut leur faire de la pub puisque c'est maison d'édition spécialisée dans les ouvrages sur le jeu vidéo. Ils ont fait un bouquin sur quasiment tous les Final Fantasy et à chaque fois, il s'appelle La Légende Final Fantasy. Donc si vous lisez celui-là, La Légende Final Fantasy 15 parle très bien de la raison d'existence du film. Il n'était pas prévu au départ, il a existé que parce qu'à un moment donné, il a fallu faire des coupes. Parce qu'en termes de budget, c'était beaucoup trop cher de faire le jeu de la taille qu'ils espéraient le faire. Et donc, il a fallu dire, ok, on va proposer aux fans de rentrer par le film... que le film soit une première entrée dans l'univers du jeu. C'est pour ça qu'ils ont fait le film. Alors effectivement, techniquement ultra bien réalisé, mais ça a été vécu, pour ceux qui le savaient, un peu comme une trahison, parce qu'ils se sont dit, ok, vous nous privez du départ du jeu, de ce qui devait être on aurait pu jouer à cette ouverture époustouflante à Insomnia.
Encore une fois, c'est les puristes.
Par une grande bataille. Mais bien sûr.
C'est ça. Parce que moi, j'ai adoré le jeu, même s'il a plein de défauts de caméra, il y a plein de trucs qui fonctionnent pas dans le jeu.
Trop béant dans le scénar aussi, qui ont été comblés ensuite.
La fin, je la déteste. Vraiment.
Ah ouais.
Je déteste la fin.
C'est ce que j'ai trouvé de plus beau.
Ah non, justement, je me suis dit, ah bah super, c'est facile, ils font comme dans tous les jeux. Je veux pas spoiler parce qu'il y a peut-être des gens qui ont pas joué, mais j'ai adoré tout le jeu. Et à la fin, je me suis dit, mais c'est tellement facile, pourquoi vous faites ça? Donc là, oui, ça, j'ai été déçue.
Après, c'est les Final Fantasy. J'ai jamais eu des grands scénarios, il n'y a jamais eu des histoires très construites.
Ah, oh, le 10. C'est
il y a jamais eu
le
grand scénario.
C'est beau le 10.
Ah, le 14. Il faut jouer au 14.
Non, voilà, mais le 14, là aussi, c'est un jeu qui se joue sur plusieurs années.
C'est ça, c'est le problème, c'est qu'il faut ne pas avoir de vie pour pouvoir vraiment jouer au 14. Mais
les gens ont une vie, malheureusement.
C'est ça.
Tristement.
Oui,
un triste constat qu'on voit les gens ont une vie.
J'aimerais mieux ne pas avoir de vie et jouer à Final Fantasy XIV toute la journée. Hein. Je dis ça, c'est pas une critique, c'est juste que.
Et c'est pour ça que je suis fan de Spielberg. Voilà.
Voilà. Donc FF15, vous pouvez y rentrer par Kingsglaive, qui est, je confirme, une très belle expérience de cinéma. De cinéma d'image de synthèse, certes, mais c'est très joliment fait.
Ah, c'est un vrai film, oui, c'est un vrai film.
Et puis si vous aimez les jeux vidéo, vous pouvez continuer donc avec FF15. Et effectivement, le seul grief que j'ai à son encontre, mais c'est pas une histoire de puriste, parce que à la limite qu'il fasse l'entrée par Kingsglaive en rabotant un peu le début, c'est pas gênant. C'est le fait qu'il y ait de vrais trous qui ont été comblés ensuite en vendant ce qu'on appelle des DLC, c'est-à-dire des parties du jeu, des morceaux du jeu qui ont été vendus ensuite à la découpe pour aller, ben voilà quoi, faire passer le fan à la caisse, et alors que ça aurait dû
j'ai
être
j'ai même pas fait les DLC.
Non mais voilà, mais
et ça m'a pas perturbé, t'as pas gêné, dans mon expérience de jeu, mais bon après c'est pareil.
Mais hein. Je l'aime beaucoup, j'ai beaucoup de tendresse pour le 15. On en avait parlé dans l'épisode numéro 2, je crois, avec Jonathan. Non, il a aucune tendresse pour le 15. Si vous pouviez voir la tête de Fred à ce moment.
Aucune tendresse pour Final Fantasy.
Ça, tu devrais.
Non, mais j'ai essayé.
Écoute l'épisode 2 de Game Lovers.
Écoute, j'ai joué à tous les Final Fantasy, donc je suis fan de la franchise. J'ai essayé de me mettre dedans, je l'ai fini. Bon, j'ai préféré la fin, mais par contre, non, j'ai pas accroché.
Alors, je le redis, si tu me permets, je le redis rapidement en 2 minutes pour essayer de te convaincre. Peut-être je vais le convaincre, on sait jamais, d'être tout est possible. Non, je te convaincrai pas.
Si, vas-y. Non,
En une minute. Je te dis juste ce que j'ai adoré de FF15. Ce que j'ai aimé de ce qu'il racontait justement de l'exigence des joueurs. On en parlait tout à l'heure, quand les joueurs vont au cinéma et qu'on est des capricieux, en fait, parce qu'on s'attend à retrouver tout ce qu'on a aimé dans mon jeu, je veux le revoir à l'écran, blablabla. Idem, quand on a aimé quelque chose au cinéma et que, je veux mon Harry Potter en jeu comme je l'ai vu, Ok, il y a un moment, on est capricieux, tu vois.
D'accord.
Les fans de Final Fantasy, ils ont fini par souhaiter un monde ouvert parce qu'ils ont vu des mondes ouverts autour d'eux. Ils ont vu Red Dead Redemption, GTA, machin, arriver plein de mondes ouverts, The Witcher et tout. Ils ont dit, et pourquoi, nous, vous faites pas un monde ouvert, Squaresoft? Square Enix.
Ouais, ouais.
Pourquoi on est toujours dans un couloir? Pourquoi vous tenez absolument à nous faire vivre une expérience calibrée sur des rails, machin?
C'est ce que j'ai détesté, moi.
De quoi? Qu'on ouvre le monde?
Ah, complètement, ouais.
Mais justement, moi, je trouve que c'est un pied de nez qui a été fait aux joueurs parce qu'en gros, tu incarnes un prince qui lui aussi est capricieux. Normalement, il a un destin. On lui a dit, bon, mon grand, tu vas collecter les épées, machin, t'as du boulot, y a des primordiaux que tu dois aller voir. Allez, papa, il t'a donné un rôle. Et le prince capricieux, lui, avec ses potes, il veut faire la pêche, il veut faire le camping.
Oui, voilà, mais...
Donc, comme nous, il veut rien faire, tu vois. Et nous, comme nous, les capricieux, là, on veut un monde ouvert. Non, on veut faire tout ce qu'on veut dans le sens qu'on veut. Donc, effectivement, c'est ce qu'on fait.
Il nous laisse faire la moitié du jeu.
Il nous laisse faire. Et à la fin, le jeu, il te rattrape par la main en te disant, bon, allez, maintenant, tu montes pour le bateau. C'est bon, tu es prêt à monter dans le bateau, à assumer ton destin. Tu montes dans le bateau sur Alticia, à partir de là, c'est fini. Mais t'es sur des rails, littéralement. C'est-à-dire que le bateau, il suit la direction. Tu prends le train à Niflheim, ou je sais plus comment ça s'appelle, c'est pareil. T'avances en ligne droite jusqu'à la fin. Et en gros, tu croises Ardina à toute fin, qui te dit, bon, c'est bon, mon grand. Parce que le monde, il s'est pas arrêté de tourner. T'as vu l'état dans lequel il est, le monde? Il va s'effondrer, mais.
C'est cette partie-là que j'ai aimé, moi. Quand on était sur des rails.
Mais c'est ça qui est génial.
Voilà.
C'est qu'à un moment donné aussi, tu vois, il y a une intention d'auteur qui, aussi pour rattraper les énormes problèmes qu'il y a eu dans le développement, mais finit par te dire, bah, voyez, vous l'avez voulu, votre monde ouvert? Eh ben, ça a été une catastrophe pour nous de vous le faire, parce qu'en fait, ce qu'on sait faire, c'est juste vous raconter des histoires. Accepter qu'on vous raconte des histoires. Voilà.
C'est nous faire.
Donc, au moins, de ce point de vue-là, moi, je l'ai trouvé au moins intéressant à ce titre, tu vois.
Très bien.
Ça y est, tu l'as convaincu.
Je t'ai convaincu ou pas?
Je déteste moins Final Fantasy.
Tu détestes moins?
Non.
Déteste moins. Bon, on parle encore un tout petit peu, si vous me permettez, technique. Les récentes performances de l'Unreal Engine et ce qui permet de faire dans les séries comme The Mandalorian et tout, vous avez vu ça ou pas du tout?
Oui.
Non. Est-ce qu'on, l'Unreal Engine, vous savez ce que c'est?
Rappelle-le pour les auditeurs.
On rappelle pour les auditeurs. En gros, quand vous fabriquez un jeu, vous avez besoin de ce qu'on appelle un moteur. Un moteur, en fait, c'est un énorme logiciel qui va générer pour vous tout un tas d'objets qui vont apparaître à l'écran. C'est-à-dire des cailloux, des arbres, enfin tous les décors dont vous avez besoin pour votre jeu, des bâtiments. C'est ce qui va vous permettre aussi de créer des personnages et de les faire se mouvoir à l'intérieur du monde, leur donner des lignes de dialogue, du texte, etc. En fait, c'est un gros logiciel qui compile tout ce qui va vous permettre de créer votre jeu. Et tout récemment, l'Unreal Engine 5, donc la dernière version d'un moteur qui s'appelle Unreal Engine, a été utilisé
pour la série
dans le cadre de la série The Mandalorian pour fabriquer tous les décors de fond et les décors à l'intérieur desquels évoluent certains personnages pour certaines scènes. Et ça présente un avantage colossal aussi en termes de bilan carbone parce que ça évite de faire des milliers de kilomètres autour de la planète pour trouver le bon endroit, le bon moment, avec le bon éclairage, la bonne météo, voilà. Pour,
Ils économisent des coûts aussi, évidemment, ils gagnent de l'argent.
Donc ça, vous l'aviez... Non, vous en aviez déjà entendu parler ou pas?
Bah, j'avais vaguement vu, oui.
Ça vous paraît bien, le fait de passer comme ça de l'analogique et de vraiment, tu vois, quelque chose de très... très terre-à-terre, à quelque chose de plus numérique. Est-ce que ça...
Ce serait vieux con de dire c'était mieux avant, tu vois, de dire...
Allez, ouais, mais est-ce que le fait de le savoir, ça rend la chose factice ou pas, à vos yeux?
Si c'est bien fait, non?
Si bien fait...
Si on vous dit que c'est des faux cailloux, ça vous...
Je m'en fous, moi, c'est l'histoire qu'on me raconte, après...
C'est l'histoire qui est plus importante, voilà, je suis d'accord avec elle.
C'est toujours pareil, quand la 3D, tout ça, c'est mal fait, bon, ça peut te sortir de l'histoire, tant dans le jeu vidéo que dans le cinéma, mais là, justement, ça tend... de plus en plus de qualité, donc
on voit quasiment pas de différence, enfin,
c'est ça.
Non, mais c'est décor, ça, mais moi je pense
l'un décor,
t'as raison, quand quand ça finit par s'atténuer à ce point là
voilà, tu
en définitive, après tout, pourquoi pas le faire, notamment si c'est pour des raisons environnementales,
en plus, enfin, si c'est pour une raison, voilà, ça permet de produire de la qualité, parce que finalement, si on peut investir dans l'histoire, les acteurs, plutôt que dans le décor, quoi,
c'est vrai, hein, peut-être dans les jets privés.
Voilà, pas se priver. D'avoir des meilleurs, des bons acteurs, d'avoir des bonnes histoires, et voilà.
Après... D'autant qu'avec le prix de l'essence actuel, c'est pas donné de faire le tour de la planète.
Faire dépasser les
déjà, si tu fais le tour d'Ajaccio en ce moment, c'est déjà une prouesse, hein.
Déjà, c'est chaud.
Après, je sais pas si c'est le Unreal Engine qui permet de faire les visages aussi, mais je sais que toute la technologie autour de visage, de rendre quelqu'un plus vieux qu'il ne l'est ou plus jeune qu'il ne l'est, ça c'est chouette dans les histoires, dans les films, ou quand un des acteurs décède malheureusement, comme ça a été le cas de Carrie Fisher dans Star Wars, ça permet de finir un peu les scènes sans casser le film totalement, et ça c'est assez fou, parce que c'est vrai que
s'en est servi, c'est vrai, dans les concerts, ça aussi, pour faire revivre des vieux chanteurs.
Mélenchon aussi.
J'allais le dire. Eh ben, tu sais
non,
quoi.
Non, c'est pas pareil. C'est pas,
j'allais y venir. Tu as des consignes de vote pour demain? Comment ça se passe? Non? Saint-Noobs?
Saint-Noobs? C'était un hologramme.
Je sais, tu étais sur l'hologramme. Ouais, parce que voilà. Mais c'est vrai, tiens. Voilà. Alors là, on n'est plus sur le cinéma. Mais en revanche, voilà, une technologie héritée.
Oui.
Probablement
des ordinateurs.
Du monde numérique qui a été récupéré dans la sphère politique. Pourquoi pas?
Comme tous les politiciens qui viennent sur Twitch et qui se créent une chaîne Twitch. Hein. Mélenchon, il a sa chaîne Twitch.
Ils sont nombreux sur Twitch?
Nombreux, non, mais de plus en plus. Il y a la chaîne de Jean Massier qui s'appelait avant Acropolis, qui est une chaîne qui ne parle que de politique et qui fait des scores de fou, parce que justement, lui, il veut vulgariser la politique pour la jeunesse, pour justement éviter les clichés de les jeunes, ils s'en moquent de la politique.
Mais en fait, faut trouver le bon outil pour leur parler.
Alors d'ailleurs, c'est en forme de podcast et en forme d'émission aussi. J'en ai vu une très bonne, mais alors là, c'est un vrai conseil que je jette comme ça. Mais elle est bon, c'est peut-être un parti pris, mais je l'ai vu sur YouTube. Vous allez peut-être découvrir ma couleur politique, hein, si je dis ça, mais après tout, on s'en fiche. Mais l'émission est très bien faite. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vue passer sur YouTube. Elle est très très colorée. Enfin, elle me paraît être même dans les codes presque pop culture, quoi. Une émission politique et qui doit aussi probablement faire du live sur Twitch. Et je sais plus du tout comment ça s'appelle. C'est grave, hein. Les décodeurs, peut-être non pas les décodeurs.
Bah, merci beaucoup. Je sais pas. Pour cette intervention.
Voilà. Ouais. Donc, c'était complètement.
C'est passé la vécu,
je sais pas. Ben, vous découvrirez du tout absolument pas ma couleur politique. Voilà.
Ni l'émission, d'ailleurs.
Ni l'émission, d'ailleurs. Je me serais préservé. Non, je vous le glisserai une.
Dans les notes.
Je vous le glisserai une fois prochaine. Non, mais je vous jure que j'aurais bien aimé en plus vous partager ça, parce que je trouve qu'elle est, elle vulgarise pas mal le, voilà, quoi, les enjeux politiques, pour ceux qui comprennent rien, tu vois, quand on voit le taux d'abstention chez les jeunes, moi, je suis quand même un peu catastrophé, je suis enseignant, je suis au moins sensible au fait qu'on aille voter, tu vois.
C'est sûr.
Je trouve ça dommage qu'ils le fassent pas, donc non, je l'ai pas, je la retrouve pas, mais je vous la donnerai une fois prochaine, parce que...
Les politiques doivent aller chercher les jeunes là où ils sont, c'est-à-dire s'ils sont sur Twitch, il faut aller leur...
Ouais, c'est pour ça que je leur en veux pas de le faire. Après, s'ils vont faire comme tous les...
Après, il faut les éduquer, mais
s'ils vont faire comme tous les quadras qui investissent des réseaux et qui, du coup, les ringardisent à partir du moment où ils mettent le pied dedans, tu vois,
Ouais, bon.
Je sais pas. Je pense que Facebook est mort de ça, Instagram mourra de ça aussi, Snap peut-être est déjà en train de... Tu vois, on passe toujours de...
Oui, les jeunes vont chercher la nouveauté.
Les jeunes, mais non, mais voilà.
Il n'y a pas les parents, il n'y a
pas...
J'ai fait une conférence sur le numérique qui expliquait, avec un mec qui expliquait ça très bien, qui expliquait que ça s'appelait le braconnage, et qu'en gros, les jeunes, ils allaient justement braconner et le nouvel outil et qui n'était pas investi par le plus grand nombre, en fait, par la masse pour être tranquille. C'est vrai que moi, à l'époque où j'ai connu Facebook, c'était un espèce de refuge pour les gens de notre génération. À cette époque-là, moi, j'avais 17, 18 ans. Et c'était un refuge où on pouvait s'y retrouver. Et c'était pas encore pollué ni par la pub, ni par les discours politiques, ni par les laïus moralisateurs. Enfin, vous voyez très bien, mamie sur Facebook, non, hein. Donc, et ça a migré ensuite du coup vers Instagram, puis Snapchat, puis TikTok, et comme ça, de génération en génération, on essaie toujours de s'approprier de nouveaux outils.
C'est un peu l'évolution peut-être.
Moi j'ai rien contre. Est-ce qu'on a d'autres nouveaux outils numériques éventuellement, ou enfin quelques technologies qui ont concerné à la fois le jeu vidéo et le cinéma? Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent à l'esprit, enfin un espèce d'héritage commun? Parce que moi, j'ai l'impression quand même que plus on avance, plus le jeu vidéo essaie de ressembler au film, même dans sa volonté d'être de plus en plus réaliste. Et je me demande si on perd pas un peu de créativité en route. Si c'était pas bien, au fond, quand on avait des gros polygones et que ça laissait davantage de place à l'imaginaire, tu vois. Je sais pas, vous avez pas d'avis là-dessus?
Le problème, c'est que plus on avance et plus les gens sont exigeants aussi, parce que il y a des jeux qui sortent maintenant qui ont une narration qui est géniale et il y a plein de gens qui vont pas y jouer parce qu'ils vont dire « Attends, mais c'était ce qu'on faisait il y a 10 ans en termes de qualité graphique, j'ai pas envie de jouer à ça, point barre. » Donc,
et pourtant.
Voilà, c'est un compromis. Mais que tout le monde n'est pas prêt à faire, je pense.
Je sais pas, vous êtes attaché ou pas à cette fidélité?
Moi, c'est comme le jeu vidéo et le cinéma. Pour moi, le point commun, c'est l'histoire. Si l'histoire est intéressante, la forme passe après.
Dans la forme, elle rend de grands services aussi.
La forme aide. Si la forme aide la narration, mais ça peut être moche et intéressant.
Tu vois, après les exemples tout à l'heure, The Last of Us ou God of War, par exemple. Tu vois, je prends les deux gros exemples.
Ouais, les gros blockbusters.
Avec de la vraie grosse mise en scène. Oui, parce qu'en fait, c'est ça. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que de plus en plus de jeux vidéo sont traités comme des blockbusters de cinéma, avec des moyens ébouriffants.
De communication.
De communication, de production.
Largement des
200 millions de dollars. Rien que pour la création du jeu. Et ils sont rentrés dans leurs frais.
N'ayez
pas peur. Mais est-ce que justement,
est-ce que c'est pas trop peut-être? Est-ce qu'on perd pas?
Est-ce que c'est pas trop déjà? Et est-ce qu'on s'y retrouverait s'il n'y avait pas autant de moyens investis, s'il n'y avait pas autant de pubs et s'il n'y avait pas autant de moyens hérités du cinéma? Est-ce que vraiment ce serait à ce point formidable? Ou est-ce que c'est tout ce qu'a pu apporter le cinéma dans ces œuvres-là qui nous a aussi percutés?
Mais je pense que c'est comme le cinéma. Il y a les grands blockbusters et à côté, tu auras des films et des jeux indépendants ou avec moins de budget qui vont raconter les histoires différemment, qui vont revenir, on revient au pixel, au pixel art qui est revenu à la mode. Parce que ça coûte moins cher à faire et on peut raconter des histoires aussi intéressantes mais avec moins de moyens.
Après, il y a
comme t'as du cinéma indépendant qui a moins de moyens, t'as pas d'effets spéciaux mais qui raconte des belles histoires aussi.
Il y a des semi-indépendants aussi qui ressemblent au cinéma. Tu vois, je pense à Plague Tale. Quand même, il y a une valeur de production qui est très très haute.
Alors, c'est beau, voilà. Mais...
Pourtant, ils ont pas du tout les moyens de ce qu'on appelle les triple A, c'est-à-dire ceux qui fabriquent des jeux.
Ils travaillent différemment, ils trouvent une manière différente de travailler.
Non, mais pourtant, tu vois, ils empruntent plein de codes au cinéma, ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, la caméra à l'épaule, le personnage décalé d'un tiers.
Dans le jeu vidéo, maintenant, un jeu à la troisième personne, si tu mets pas la caméra à l'épaule, ça va être difficile. On est tellement habitué à le voir, tu vois,
Peut-être, mais moi, je t'avoue que les premiers, quand je m'y suis remis,
ça m'a un peu
perturbé, mais.
Maintenant, un jeu troisième personne où la caméra n'est pas à l'épaule, c'est quasiment injouable. On n'arrive plus à jouer au...
Je sais pas, il faudrait.
Moi, je le vois souvent.
Regardez.
Sur des vieux jeux, tu rejoins un vieux jeu, tu dis, comment on joue à ça, tu vois.
Vous ferez attention à ça pour ceux qui ne le savent pas, mais.
C'est tout en 3D.
Prenez les jeux d'action aventure des années 2000. Vous prenez Zelda, vous prenez, on va prendre,
Zelda sur Nintendo 64,
la caméra. Voilà, c'est celui-là que je pense.
La caméra bougeait dans tous les sens.
Ocarina of Time.
Ils avaient été obligés d'inventer.
Non, mais surtout, le personnage est centré.
Ah oui.
Le personnage est centré au milieu de l'écran.
Mais c'est très dur d'y rejouer maintenant.
Tomb Raider, Lara Croft est centré.
Je pense que c'est Resident Evil 4 qui a...
Max Payne, le premier qui le fait, ouais, t'as raison.
Caméra à l'épaule, ouais.
Ouais. Ça doit être Res 4 qui met le premier et la caméra à l'épaule et qui tout, bah, et tout de suite, en fait, en empruntant ce petit trick de cinéma, de dire, je décale mon personnage par rapport à l'action et je me mets plus proche de lui.
Ça a tout changé.
D'un coup, ça a tout, mais oui, la perspective même que tu as sur le jeu, parce que déjà, t'as tout un angle de vue qui est bouché. C'est-à-dire que t'as l'impression de pas pouvoir regarder sur un côté.
Et du coup, ils ont pu jouer avec ça.
Et depuis, d'ailleurs, ils continuent à jouer avec ça et c'est vrai que ça a participé de notre immersion, tu vois. Comme quoi, des fois, un tout petit, pas que c'est un game changer, mais
non, ça a changé l'industrie du jeu vidéo. C'est sûr que maintenant, tu peux plus faire un jeu comme ça à la troisième personne sans la caméra à l'épaule.
Et que depuis Res 4, depuis Resident Evil 4, il y a eu celui-ci, il y a eu, bah, il y a eu
tous. Metal Gear a suivi.
Metal Gear, non, il y a. Attends, oui. Si.
Les derniers Metal Gear, c'est mettre caméra à l'épaule.
Ah bon.
Oui. Dès le 2, hein.
J'ai un vrai doute.
Non, le 2, t'as encore
c'est la vue FPS.
Dans le 2, il y avait une vue qui était de dessus et on pouvait passer en.
Tu arrives à avoir la caméra à l'épaule derrière après. Un peu plus reculé, mais
j'ai un vrai. Alors, le 4, je vois à peu près. Je suis à peu près sûr pour le 4. Mais pour le 5, j'ai un doute.
Je pense aussi.
Ah ouais, je sais.
C'est un peu plus reculé, t'es un peu. T'es moins centré, t'es un peu plus.
Peut-être. Mais oui, un peu comme Horizon Zero Dawn où on a un personnage légèrement décalé. Ouais, c'est curieux d'ailleurs parce que c'est un code du cinéma, le fait de décaler un personnage légèrement dans un tiers de l'écran, gauche ou droite, mais rarement au cinéma vous les voyez de dos.
Après, ça améliore. Je pense.
Alors que nous, on a l'habitude de côtoyer notre personnage quasiment constamment de dos.
De dos.
On le voit jamais de face comme au cinéma.
Ouais,
pourtant, voilà, c'est une astuce de cinéma. Si tu le fais de face, c'est le truc devient jouable. Non, je dis pas que c'est normal.
Non, non, si le personnage pas modélisé de face, ça changerait pas grand chose.
Ah oui, c'est vrai. On le verrait presque pas. D'ailleurs, dans la durée des jeux indépendants, parce que ils ont forcément moins de moyens, etc. Il y a quand même des expériences très courtes qui se rapprochent du cinéma en termes de durée et qui nous permettent de voyager instantanément. Tu vois, je pense à Journey, par exemple.
Journey
à Abzu, des petits trucs comme ça. Peut-être pas les mêmes moyens que
j'ai aussi. Pas joué.
Tu as pas joué?
Non, j'ai pas joué.
Ah, oh, il faut que vous fassiez Journey.
Non, pas fait non plus.
Ça mérite que tu fasses un stream peut-être.
Ouais. J'ai fait Flowers.
Ah bah oui.
Ça j'ai fait.
Il y avait une fin Flowers d'ailleurs, je me demandais.
C'est
le pétale qui embarque plein de pétales.
Ouais, c'est ça.
Celui-ci.
Exactement.
Et... Je connais le nom mais j'ai pas joué.
Bon, est-ce que c'est une expérience de cinéma? Est-ce que c'est une expérience poétique?
Non, c'est une expérience poétique, Flowers. Après, Journée, je peux pas te dire, j'y ai pas joué, j'ai pas regardé des gens y jouer, mais...
Ça fait pas expérience ici, ce serait une expérience de cinéma contemplative. Ce serait presque un peu comme le cinéma d'essai, enfin, le cinéma, comment on appelle ça? Le cinéma
d'arrêt d'essai.
Expérimental, voilà, d'arrêt d'essai. C'est un peu, et c'est vrai qu'on retrouve dans l'industrie du jeu vidéo, comme vous disiez tout à l'heure, quoi, un peu de ces deux,
Voilà, des studios qui ont moins de moyens, donc ils cherchent de manière originale de présenter leur histoire.
C'est bien que ça existe. Je pense que le jeu qui fait le plus ça, qui démontre le plus que, bah, le jeu vidéo a ses blockbusters comme au cinéma, c'est Spider-Man.
Ah oui.
Ou Avengers, voilà. Ou ces grosses licences qu'on voit débarquer depuis quelques années, les Marvel, qui ont leur grosse production cinématographique, et avec la grosse production vidéoludique qui tâche, et derrière ça, pour autant, existe tout un tas de films ou tout un tas de jeux vidéo qui proposent des choses bien bien différentes. Hein. Bon, de quoi est-ce qu'on va parler là? On va égrener. Vous savez quoi?
Égrener.
Fin d'émission, on va se laisser là-dessus. Les meilleures adaptations du jeu vidéo en cinéma. Ou les pires adaptations du cinéma en jeu vidéo.
C'est rigolo, les pires.
Les pires. Vous êtes dur quand même. Vous êtes dur. Les pires adaptations en jeu vidéo. À quoi pensez-vous?
De film vers le jeu vidéo.
Les pires adaptations de film en jeu vidéo. Qu'en dites-vous?
Le premier, c'est E.T. qui a failli tuer l'industrie
du jeu vidéo. Ah, d'ailleurs, vous la connaissez, l'anecdote avec E.T.
Pas du tout.
Vous connaissez pas? Ça a fini. Alors, il se murmure que tout un tas d'exemplaires, que tous les invendus d'E.T. qui ont été produits. Alors, en gros, voilà, ça a été une commande pour le film et ça a été un carnage parce que, bah, les moyens de production vidéoludique de l'époque étaient pas du tout ceux qu'ils y sont aujourd'hui. Donc, ils ont fait un jeu vidéo,
Vous allez voir les images sur YouTube du jeu.
Absolument terrible. Et Et en fait, ils avaient produit tellement de cartouches qui ne se sont pas vendues qu'un jour, en catimini, je sais plus si c'est ceux qui avaient ordonné la commande ou si c'est ceux qui avaient fabriqué le jeu vidéo, mais enfin bref, ils ont chargé tous les résidus de jeu dans une benne et ils sont allés les enterrer quelque part dans le Nevada ou je ne sais où.
Ah oui.
C'est la légende.
Et voilà. Et la légende. Et il y a des gens qui se sont mis en quête de ça.
De creuser.
Une quête de creuser pour aller trouver les vieilles disquettes, périmées, perdues, etc. Et je sais pas si des jeux entiers ont été retrouvés, mais je crois que des résidus, au moins de jaquettes, ont été retrouvés sur place.
Et ça
qui attesterait la... Et oui,
c'est le jeu vidéo a été tellement
ébranlé par ça,
ça fait tuer le jeu vidéo.
Carrément.
Ouais.
Alors donc E.T. Et puis est-ce qu'il y en a d'autres auxquels vous pensez parce que moi là je trouve les très mauvais films, mais je trouve pas les très mauvais jeux adaptés du cinéma.
Moi j'avais le cinquième élément. Le jeu Cinquième élément, alors en fait j'y ai jamais vraiment joué, déjà parce que j'étais jeune, c'était sur PC, etc., donc j'avais pas accès illimité au PC.
Ouais.
Je crois que j'ai jamais réussi à passer le premier niveau, si tu veux, parce que je trouvais pas la solution et qu'à l'époque on n'avait pas internet comme maintenant où on peut facilement trouver les solutions. Moi j'achetais pas de magazine de solutions et tout à l'époque, donc j'y ai jamais vraiment joué, donc pour moi, c'est pas un super jeu parce qu'il était pas très accessible, on va dire, à des gens qui débutent dans le jeu vidéo, en fait.
Je crois qu'une des pires transitions, c'était donc du passage de la 2D à la 3D. Là, il y avait vraiment des problèmes de caméra et en plus, on adaptait des films. Tu as parlé donc Cinquième élément, il y a également Les Visiteurs.
Ah, il y a un jeu vidéo sur Les Visiteurs.
Oui.
C'était encore le passage 2D, 3D.
C'est vrai que c'est
un faux absolu, c'est un carnage.
Il y a eu Taxi aussi.
Je le laisse sous les yeux.
Taxi 2,
qui apparemment a été une daube infâme, mais bon, puisque tu le confirmes.
Mais c'est vrai que les visiteurs.
Comme quoi, c'est pas toujours heureux de se dire on a une belle franchise cinématographique, on va adapter ça et puis on va vous faire cracher vos.
Pourtant, quelque part, un jeu de course.
Vos francs, vos euros, je sais pas. Il y a eu un jeu Bienvenue chez les Ch'tis. Non, mais je découvre des trucs. Il y a eu un jeu Bienvenue chez les Ch'tis. Alors apparemment c'était sur PC, DS, oui, enfin sur beaucoup trop de machines.
Mais la plupart du temps c'est clairement fait pour en fait faire de l'argent, comme dans l'autre sens au final. Mais après ça pourrait être fait de manière intelligente. Le problème c'est que la plupart du temps c'est pas le cas. En fait. Soit ils ont
quand
pas le budget.
Quand c'est fait pour faire de l'argent, c'est vrai voilà, que c'est ça se sent
le
trop.
Le premier jeu Iron Man aussi sur PS2 ou PS3 je crois.
Ouais, parfait.
Quand le film est sorti, une catastrophe aussi, caméra.
C'est dommage parce qu'il y a des réussites, elles sont rares, hein. Mais tu vois, Spider-Man, ça marche bien pour celui qui.
Très bien.
Il y en a qui fonctionnent pas mal, hein. On a suivi tout à l'heure, c'est vrai, Tomb Raider marchait bien. Uncharted, ça a du succès. Moi, c'est vrai que j'y suis moins sensible, mais je comprends. Déjà, je suis pas très sensible.
Mais là, c'est dans le sens inverse, du coup.
Les visiteurs est cité. Ouais. Alors, bravo à Cyril, hein. Voilà.
Je crois que le joueur du grenier en a parlé dans un de ses.
Les visiteurs et la relique de Saint-Roland.
Aïe, aïe, aïe. Ouais.
Déjà, le titre. Le titre, normalement, doit vous. Je dois vous mettre sur la piste.
Ça,
hein. Ça sent le sapin. Alors là, j'ai du Last Action Hero, je connais pas. J'ai du L'Arme Fatale sur Amiga, Atari ST.
Ah ouais.
Commodore 64, des noms oubliés de tous.
Non.
Qu'est-ce qu'on a? Il y en a des. Oui, le fameux Street Fighter The Movie dont vous aviez parlé. Regarde. Et le Enter the Matrix. On pourrait presque peut-être se laisser là-dessus, hein, tellement. Tellement Cibou a eu la dent dure tout à l'heure.
Ouais, après les jeux Matrix, je les ai pas du tout.
J'avais joué à Enter the Matrix et c'était franchement pas une réussite.
Ouais.
Hein. Et oui, dans la même époque, il y avait le jeu Die Hard aussi qui était sorti. Die Hard et qui était particulièrement catastrophique. Ils avaient fait les trois jeux. Alors non, attends, c'était un jeu, mais c'était tellement curieux. Il y avait les trois premiers Die Hard, donc Piège de cristal, 58 minutes pour vivre et Une journée en enfer. Les trois étaient compilés dans le même jeu.
Dans un seul CD.
Voilà, dans un seul CD, il y avait les trois possibilités avec trois gameplays différents. Et
ça t'a marqué manifestement.
Non, mais c'était comme deux ou trois missions, on va dire. Admettons Piège de cristal, c'était comme un TPS, enfin un jeu de tir à la troisième personne où t'incarnais John McClane qui allait nettoyer la tour de je ne sais plus où d'ailleurs. C'est où la tour?
Plaza.
Comment tu dis?
Nakatomi Plaza.
Nakatomi Plaza, je sais pas, mais oui. Donc il allait plus ou moins liquider du truand, quoi. 50 minutes pour vivre, c'est le gameplay que je n'ai jamais compris. Il s'agissait de faire quoi?
Un rail shooter, tout simplement.
Ah ouais?
Ouais. On commençait donc dans l'aéroport, il fallait soit à la manette, soit le pistolet.
Exact. Et oui, mais on était sur quel rail d'ailleurs? C'est vrai, qu'est-ce qui faisait qu'est-ce qui nous faisait avancer ou reculer chez moi?
Non, c'était juste scénarisé, le déplacement du personnage était tout de suite calculé.
Ah ouais.
Toi, tu devais tuer les.
Ah non, parce que je me disais, autant t'es sur un véhicule de l'aéroport ou tu sais, le truc de bagages, vous connaissez ça, vous, ou sur le tapis roulant. Là, je sais pas. Non, d'accord, donc le déplacement était géré par la machine.
Par la machine, et toi, tu gérais de tuer les terroristes qui se présentaient en face de toi.
Donc on liquidait toujours. Et le troisième gameplay, c'était dans le taxi. C'était catastrophique. Rien que d'y penser, c'était catastrophique. Et j'ai jamais compris de ce qu'il était question de faire, vraiment. Tu vois, je me rappelle juste des trois variantes de gameplay.
Mes souvenirs dans Une journée en enfer.
C'était un fou.
PlayStation,
hein.
Il fallait désarmer les bombes.
Oui, comme dans la séance du parc du film. En leur fonçant dessus. Je sais plus, mais en plus, il y avait l'histoire des essuie-glaces où tu pouvais écraser les piétons et tu avais le sang sur les essuie-glaces. Enfin, c'était terrible. C'était un ratage.
Monumental.
Ouais, monumental. Ouais, je pense bien. Colossal, colossal, vraiment. Eh ben, écoutez, je pense qu'on peut se laisser là-dessus. Comme quoi, on en a vu des vertes et des pas mûres.
Est-ce que vous avez des choses à conseiller, que ce soit en film ou en jeu vidéo, pour quelqu'un, soit nouveau, soit ancien?
Qui soit forcément en lien, tu dirais, là, avec, enfin, ouais. Un jeu qui soit en lien avec un film, une très bonne
expérience. Ou l'inverse. Moi, j'ai une série à conseiller si vous l'avez pas vue. C'est sur Netflix, c'est sorti en 2018, c'est une série coréenne, s'appelle Memories of Alhambra, donc ça se passe à Grenade, c'est un PDG d'une grosse boîte qui a fabriqué une lentille un peu que quand tu la mets t'as une espèce de réalité virtuelle, qui va racheter la licence d'un jeu vidéo qui fonctionne grâce à cette lentille. C'est-à-dire, tu la mets et tu te retrouves sur la place avec la statue de Napoléon, et la statue de Napoléon commence à prendre vie et tu vas la tuer.
Pourquoi la tuer tout de suite?
Bah, parce que c'est un méchant.
On déteste forcément. Napoléon. Non, en fait, on déteste Napoléon.
Non, j'ai essayé de prendre une référence locale, j'aurais pas dû. Alors. Mais tu vois, et du coup, voilà, ça c'est.
Redonne le titre, non, parce que je la connais pas.
Memories of Alhambra.
Memories of Alhambra.
Et c'est, moi j'ai adoré. Bon, après c'est coréen, donc c'est assez lent. En tout cas, dans les premiers épisodes, si vous avez pas trop l'habitude des séries coréennes.
On a tous dû regarder le phénomène Squid Game.
Oui,
j'imagine.
Mais
on a tous dû voir Parasite. Vous avez vu Parasite, hein?
Parasite.
Oh, extraordinaire. Bon, rien à voir avec le jeu vidéo.
Je regarderai en rentrant.
T'as pas vu Parasite? Regardez. Extraordinaire. Extraordinaire.
Et du coup, vraiment très bien. Il y a évidemment une histoire d'amour aussi un petit peu en parallèle, mais c'est pas le.
On a rien contre.
Le centre de la série.
Ah, l'amour.
C'est Game Lovers.
C'est que d'amour. C'est que d'amour.
Ah oui, c'est Game Lovers, évidemment.
Toi, t'as une.
Ah, moi, c'est pas un film, c'est un documentaire. Ça s'appelle The King of Kong.
The King of Kong.
Voilà, vous pouvez le trouver sur YouTube, The King of Kong. Voilà. Ouais. C'est un documentaire qui parle de l'histoire de deux personnes qui s'affrontent pour avoir le record à Donkey Kong.
Ah ouais?
Voilà, donc ça se passe dans l'univers des bandes d'arcade dans les années 80.
C'est sur une plateforme de stream ou?
Vous le trouvez sur YouTube, parce que c'est un vieux documentaire maintenant. Il est tout sous-titré en français. Et donc on suit en parallèle ces deux personnes, dont une qui est affreuse, Mitchell, elle s'appelle, voilà. Et ouais. Qui triche, qui va faire tout son possible pour avoir le record du monde.
Ah ben, c'est donc, pas un film, c'est un documentaire sur des vrais gens.
Et en fait, ça dépasse tellement l'imagination ce qui se passe dans le documentaire que vous vous dites c'est pas possible, c'est pas vrai. Mais en fait, c'est vrai. Mais en même temps, c'est un regard très tendre et très affectueux sur le monde du jeu vidéo et sur les joueurs de jeux vidéo, et notamment les joueurs d'arcade de l'époque. Donc, je vous le conseille.
Voilà. Avec plaisir. Moi, je connaissais pas. Oui. Cyril, t'as une suggestion?
J'en aurais une, mais j'ai oublié le nom d'un manga. C'est l'histoire d'une petite fille qui joue donc à une bande d'arcade qui joue à Street Fighter 2. Et du coup, dans le manga, il y a une histoire, enfin, il y a des images du vrai jeu Street Fighter. Okay. En même temps, bien sûr, après, dans le manga, il y a une histoire, une petite romance avec un garçon. Mais c'est très plaisant à voir. L'histoire est sympa. Et puis après, il y a un lien entre les deux personnages principaux grâce aux bandes d'arcade et à Street Fighter 2 en particulier.
D'accord. Bah, écoute, si tu retrouves le nom, tu nous le donneras, on le glissera dans une prochaine de Game Lovers.
Sur Netflix.
Sur Netflix.
Oui, il faudrait juste, dommage, le nom, je l'ai zappé, mais si je le trouve.
Non, moi, j'aurais aimé vous conseiller un vrai jeu vidéo hérité d'un film ou un vrai bon film hérité d'un jeu vidéo, mais j'avoue, J'avoue ne pas en avoir en tête. Non, ce que je vais vous conseiller, en revanche, pour ceux qui ne l'ont pas fait, davantage pour l'expérience en fait cinématographique et vidéoludique que vous allez vivre en faisant, en jouant au jeu.
Tu vas conseiller Detroit Become Human.
Je vais conseiller The Last of Us à plus d'un titre. Déjà parce que il fait un peu ce qu'aime bien faire Kojima. C'est-à-dire décevoir l'attente des gens, et moi j'aime bien parce que au moins il y a une vision un peu assumée.
Il y a un contre-pied.
On vous sort de votre zone de confort. Le 2 bouscule et va chercher en vous des choses que peut-être vous voulez pas faire, mais vous allez les faire quand même. Et j'aime bien quand le jeu vidéo peut être aussi provocateur que ce que serait un film. Donc je vous conseille les deux, d'autant que la série va sortir l'année prochaine. Ce sera pourquoi pas une occasion déjà vous aurez une porte d'entrée vers l'univers. Si jamais vous n'osez pas aller vers le jeu vidéo, peut-être vous pourrez rentrer par la série. Et puis il y a le remake aussi. Enfin, il y a le premier qui va être refait prochainement également. The Last of Us Part One, ainsi il va s'intituler. Donc The Last of Us pour ce qui me concerne.
Ça peut peut-être intéresser les gens. Donc c'est le titre, c'est Ask Our Girl.
Comment tu dis?
Ice Core Girl.
Ice Core Girl.
Netflix, okay. Voilà, c'est une sorte de personnage. Et ce qui les relie, c'est l'amour du jeu vidéo et dont Street Fighter 2 en particulier.
Ok.
Eh bien, messieurs, dames, c'est parfait. Je note quand même que nous avons passé près de 2 heures à parler de jeux vidéo et de cinéma et qu'à aucun moment, le mot trône n'a été prononcé. Voilà, on est des génies.
On est des génies.
Il y a trop de choses à dire sur Tron.
Ouais, parce qu'en plus, il a été rebooté.
On a oublié Tron, on a oublié Wargames, on a oublié plein de choses. Hein. Voilà.
Non, mais voilà, c'est une émission.
C'est infini.
Vous l'avez compris, quoi. On est.
Il y a tellement de liens entre les deux univers que c'est.
On est des lovers. Et les lovers, des fois, c'est passionné. Et dans la passion, au milieu, eh ben, on saute des fois quelques étapes comme ça. C'est pas grave. Ça nous arrive à tous. Enfin bref, merci à vous tous. Merci de nous avoir écoutés. Merci de continuer à le faire. Merci de partager nos publications si vous le faites. Enfin, en tout cas, nous, on est ravis de toute l'affection et tout l'intérêt que vous pouvez porter à notre petit vaisseau, avait dit un ami au cours de la première émission. Je trouve ça mignon, déjà, le petit vaisseau. Ça retranscrit bien l'esprit de l'émission.
Hein. C'est bien.
Eh ben écoutez, on se dit à très bientôt pour une prochaine. Ajaxienne, Calvez, Bastiaise, nul ne le sait. Ce sera la grande surprise. En revanche, le thème, ce sera peut-être jeux vidéo Si, je le sais, c'est sur les jeux vidéo et sur le caractère, interactif.
L'interaction.
L'interaction dans le jeu vidéo. Voilà, ce sera probablement le thème de la prochaine émission. Enfin bref. Vous découvrirez ça prochainement. Je dis merci à tous les participants.
Merci à toi.
Merci à Cibou d'abord, d'après la bienséance, messieurs, s'il vous plaît.
Non, pas de bienséance.
Merci à tout le monde. Merci à vous tous. Merci de nous avoir accueillis dans les très beaux locaux de
Retro Arcade Game.
Venez acheter des bornes d'arcade, ça coûte très cher, mais le jeu en vaut la chandelle. Non. Si c'est un super bel investissement que vous pouvez faire. Merci à vous tous, à très bientôt sur les antennes d'RCC ou en podcast. Bon après-midi, bonne journée, où que vous soyez, quel que soit votre âge. Merci très chaleureusement. Ciao.
Ciao.
À bientôt.
Merci.